best-seller en partenariat avec l'Heureux Séjour.
Catherine Bardon, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Alors, on va parler de votre livre « Une femme debout », nouveau livre, avec une nouvelle héroïne inspirée d'une femme qui a vraiment existé, une militante féministe hors du commun.
Oui, c'est plus qu'inspiré, puisque c'est une biographie romancée. Donc, « Une femme debout » raconte la vie de Sonia Pierre, une militante des droits humains dominicaine, d'ascendance haïtienne, qui s'est battue toute sa vie pour les droits des Haïtiens, des coupeurs de canne haïtiens en République dominicaine.
Alors la République dominicaine, c'était déjà le début de votre saga qui vous a fait connaître les déracinés. Comment vous avez atterri à aimer comme ça la République dominicaine et à la connaître?
C'est comme ça, ça s'est passé comme ça, c'est-à-dire c'est le hasard, des vacances, comme beaucoup de gens, beaucoup de touristes, des vacances m'ont emmené en République dominicaine, je suis tombée sous le charme du pays, et jusqu'à quasiment m'y établir presque à mi-temps.
Et vous avez commencé tout de suite, en fait, les recherches historiques sur tout ce qui s'était passé sur ce territoire finalement très peu connu des francophones?
Je me suis intéressée rapidement à l'histoire du pays, effectivement, parce que j'ai commencé par écrire des guides touristiques, ensuite j'ai fait des livres de photos. Donc je me suis intéressée à l'histoire, aux faits marquants, aux gens qui ont marqué l'histoire aussi, aux héros du quotidien, aux héros, aux grands héros, aux héros de l'histoire, et puis à ceux du quotidien, comme ceux des déracinés, comme les pionniers, les derniers pionniers des déracinés que j'ai eu la chance de rencontrer. Et donc, effectivement, Sonia Pierre est une des héroïnes de ce pays.
Alors justement, ces pionniers des déracinés, est-ce que c'est Kurt le premier que vous avez rencontré ou c'est pas du tout lui?
Si, c'est lui, c'est si. Kurt, qui se faisait appeler Louis, c'était tout simple. Voilà, il s'était tropicalisé, voire dominicanisé. Et donc, Kurt S., qui m'avait raconté son histoire, de jeune homme allemand de 20 ans qui avait atterri vraiment faute de mieux dans ce pays pour échapper au nazisme.
Alors justement, souvent vos héros, c'est des gens qui n'ont pas grand-chose, rien ou qui ont tout perdu, mais qui ont un grand cœur.
C'est le hasard, sans doute. Peut-être que ces gens-là, effectivement, ils ont peut-être plus de facilité à se construire des vies qui impressionnent, ils ont peut-être des chemins de vie plus difficiles que d'autres et qui sont source de romanesque, finalement. Parce que ce soit les pionniers des déracinés ou la vie ou Sonia Pierre, à chaque fois, c'est vrai que leur trajectoire force l'admiration. Pour Sonia Pierre, par exemple, c'est une trajectoire qui commence dans un village de coupeurs de canne. C'est une petite vanne-pied qui n'a strictement aucune chance et aucune espérance à avoir dans la vie et qui finalement va se propulser sur le devant de la scène internationale grâce à l'éducation, grâce aux études et qui va devenir une militante internationale qui, à la veille de sa mort, était pressentie pour le prix Nobel de la paix. Donc, c'est un itinéraire qui, finalement, force l'admiration et dont on se dit que si je l'avais inventé, ce serait presque exagéré.
C'est vrai. Mais pareil sur le parcours des déracinés, parce que de là, ils partent alors qu'ils n'ont rien, puis les États-Unis, et puis on suit sur toute leur famille comme ça pendant des années, et y compris la richesse, mais aussi toujours des belles histoires d'amour, Catherine Bardon.
Des belles histoires de vie, oui, des beaux chemins de vie, c'est-à-dire des chemins où petit à petit on se construit et où les choses trappes de l'existence vous aident à vous rendre plus fort et vous permettent justement de reconstruire des vies ou de construire des vies. Peut-être que dans mes héros, qui sont jamais des héros fictifs finalement, seule Flandéoro, la fille du dictateur de Mequin, a eu moins de chance que les autres parce qu'elle a une vie finalement assez tragique, assez dramatique, mais d'une manière générale, effectivement, c'est des gens qui tracent leur chemin dans l'existence.
Est-ce que ce roman-là, il vous permet de dresser une partie de l'histoire du féminisme sur ce qui s'est passé au XXe siècle ou c'est vraiment plus localisé?
Je dirais que c'est quand même plus localisé, même si son parcours de femme force l'admiration, puisqu'effectivement, en tant que femme, elle était au départ destinée à pondre des enfants et à s'occuper de nourrir les poules et des tâches ménagères. Donc, c'était sa prédestination et elle a déjoué sa prédestination, comme je le disais, grâce à l'éducation et grâce à sa volonté, à son travail et à son intelligence aussi, bien manifestement. Mais c'est d'une histoire d'émancipation des femmes. C'est un modèle pour les femmes. C'est un modèle aussi pour les femmes de ces villages de coupeurs de canne, les femmes qu'elle a essayé de prendre sous son aile, de motiver, d'ouvrir à des professions, d'ouvrir à des formations. Ça a une valeur universelle, oui, mais je dirais que c'est un chemin d'émancipation des femmes, d'une catégorie de femmes.
Souvent, il y a aussi beaucoup de solidarité, de fraternité entre vos personnages. C'est important pour vous de développer ces thèmes dans la société d'aujourd'hui, qui est plus individualiste?
Effectivement, je crois que sans solidarité, on n'arrive pas à grand-chose. On a besoin les uns des autres. Dans les Déracinés, c'était une évidence. Ils ne pouvaient pas se construire seuls. C'est une communauté qui a survécu et qui s'est réenracinée dans une autre culture. Je pense que individuellement, ils n'auraient pas réussi. Et d'ailleurs, l'histoire nous dit que certains des pionniers de cette communauté sont venus rejoindre le projet de la communauté, du kibbutz en l'occurrence, parce que ils s'en sortaient pas tout seuls. Donc voilà, c'est le besoin de construire ensemble. Pour Sonia Pierre, c'est un peu différent, c'est-à-dire que effectivement, elle va s'en sortir toute seule. Elle est peu aidée. Elle est aidée par une espèce de mécène, un missionnaire qui va entrevoir le potentiel de cet enfant. Et c'est grâce à lui que finalement elle va pouvoir poursuivre les études, avoir cette opportunité de grandir. En retour, elle va aider les autres femmes et considérer que c'est la mission de sa vie d'être solidaire de ce milieu dont elle est issue.
Il y a aussi souvent chez vos personnages une force très importante et une résilience par rapport aux épreuves de la vie. Et c'est vrai que c'est des histoires vraies, mais on est épaté tout de même de ça chez vos personnages.
Oui, je vais pas choisir des losers. J'ai pas envie de raconter l'histoire de losers. Il vaut mieux prendre des personnages exemplaires. Il vaut mieux prendre des personnages dans lesquels on a envie de se projeter et qui servent finalement d'exemple, qui sont des leçons de vie. Non, j'ai pas envie d'avoir des personnages. Il y en a tellement finalement des personnages qu'on rencontre et qui forcent l'admiration qu'autant parler de cela. En tout cas, moi, c'est mon envie de parler de cela.
Est-ce que vous faites beaucoup de recherches quand vous faites un roman comme celui-ci ou pour la saga des Déracinés, en dehors de l'histoire vraie qu'on vous a déjà racontée? Vous lisez beaucoup, vous cherchez beaucoup de documents sur les gens qui ont existé?
Alors, oui, forcément, puisque ce sont des fresques historiques ou ce sont des personnages qui appartiennent à la réalité, ce ne sont pas des personnages inventés, même si dans les Déracinés, les personnages sont des personnages de papier, ils sont composés de tout ce que j'ai appris, des vrais personnages. Donc oui, au-delà de ce qu'on m'a raconté, j'ai fait des recherches dans les archives nationales, comme tous les historiens finalement, ou comme tous les journalistes, des recherches dans les archives nationales, dans les bibliothèques nationales, dans les archives des journaux, dans les livres qui ont été écrits sur l'époque. Par exemple, pour les Déracinés, je me suis beaucoup réimmergé dans les écrits de Stéphane Zweig. Et puis, pour Sonia Pierre, un roman dominicain de 1940, Over, qui parle de la vie des coupeurs de canne. Donc, c'est à la fois une recherche documentaire et aussi une lecture de ce qui a pu être écrit en termes d'essais, de romans sur le sujet.
Alors, Hispaniola, c'est moitié Haïti, maintenant moitié la République dominicaine. Est-ce qu'il y a beaucoup de points communs ou est-ce que c'est vraiment, à vos yeux, très différent comme mentalité ou...
Alors, c'est différent en tout. C'est différent en tout parce que l'histoire a vraiment créé deux pays différents. C'est une île qui était mandat français à une époque et puis espagnol. Et puis, il y a une partition. Donc, on a un côté qui est francophone. On parle le français et le créole, avec une population très noire, c'est Haïti. Et de l'autre côté, un pays hispanophone, avec des descendants d'Espagnols et une population extrêmement métissée. C'est différent au sens où il y a des religions différentes. Le vaudou est très prégnant en Haïti, il est beaucoup moins en République dominicaine. C'est différent au sens où d'un côté on a un État et une démocratie qui fonctionnent bien, de l'autre on a un pays qui est sans État, gouverné par des gangs. C'est différent au sens où on a un pays où les ressources ont été bien exploitées et qui prospèrent. La République dominicaine pourrait être autosuffisante alimentairement, ce qui n'est pas du tout le cas d'Haïti qui vit sous perfusion. Donc oui, c'est deux mondes complètement différents.
Et quand on est occidentale, française, belge, voilà, quand on atterrit en République dominicaine, c'est l'autre bout du monde, c'est une autre façon de vivre, c'est un autre soleil. Comment on s'habitue?
On s'habitue très vite. Je pense que c'est pas si différent de ce qu'on peut imaginer d'un pays méditerranéen, finalement, parce qu'on est dans une culture judéo-chrétienne. Finalement, il y a une histoire qu'on connaît, qu'on partage. Après, on s'habitue très vite parce que les Dominicains sont très accueillants, parce que le pays est beau, parce que les couleurs sont là, les odeurs, la musique omniprésente. C'est un pays d'insouciance aussi. Il y a beaucoup d'hédonisme là-bas. Relativement peu de culture, il faut bien le dire. Et puis, encore une fois, c'est une démocratie qui fonctionne plutôt bien. Donc, on n'est pas, même s'il y a effectivement des poches de pauvreté et d'extrême pauvreté, comme dans ces villages de coupeurs de canne, même s'il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Malgré tout, c'est un pays qui attire beaucoup de monde et beaucoup d'expatriés.
Phénomène d'édition, 650 000 exemplaires vendus sur la saga des Déracinés. J'imagine que vous ne vous y attendiez pas au début sur cette histoire très originale finalement.
Alors, c'est vrai que ça a été une belle surprise et ça continue d'être une belle surprise puisque il y a encore beaucoup de gens qui découvrent les Déracinés, le premier volume de cette histoire singulière. Et en même temps, au fond de moi, je savais, avant même d'entreprendre de l'écrire, que c'était une belle histoire. Parce que moi, en tant que lectrice, en tant qu'amoureuse des histoires d'aventure, elle m'a fascinée quand on me l'a racontée. Et j'ai tout de suite imaginé un roman, imaginé un film en long métrage. Enfin, les images étaient là. C'est vraiment une histoire extraordinaire. C'est une histoire d'aventure, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire d'exil, c'est une histoire de métissage culturel, de réappropriation d'une culture. Enfin, je veux dire, tous les ingrédients sont là pour que ce soit une histoire absolument magnifique. Donc finalement, l'engouement est universel. Enfin, s'explique par l'universalité du sujet et le fait qu'il y a tous les ingrédients d'une belle histoire de vie.
Alors, la grosse différence, c'est vrai par rapport à aujourd'hui, c'est que donc ces Déracinés, on leur proposait d'aller dans un État juif qui n'existait que depuis très très peu et qu'il fallait construire, tout faire. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Quel est votre regard sur ce qui se passe en Israël en ce moment?
Question difficile.
Je sais.
Question extrêmement difficile. Je veux dire, on peut être que frappé, désespéré par la situation que d'une part vivent les Israéliens avec cette attaque terroriste dramatique et d'autre part ce qu'endure la population palestinienne. Donc c'est difficile de prendre parti. Il faut écouter les deux voix et moi je suis quand même très meurtrie parce que vivent les Palestiniens. On a l'impression que malgré tout, il y a un lourd tribut à ce mouvement terroriste. Et donc, voilà. Et puis, bon, après, je ne vais pas rentrer dans les considérations politiques, mais il est évident pour moi, depuis très longtemps, que la solution de deux États s'impose. Et malheureusement, on ne sait pas ce que donneront les négociations de demain, mais c'est ce qu'on peut espérer de mieux pour la paix dans cette partie du monde.
Merci beaucoup, Catherine Bardon.
Merci à vous.
C'était Best Seller en partenariat avec l'Heureux Séjour.